Melody, la radio vintage forever.
Il est animateur, écrivain et réalisateur. Il y a quelques années, notre invité était sociétaire de la plus célèbre émission radiophonique. Tous les week-ends, il réveille la France sur la station RTL. Si je vous dis Dragster, Sympathie et 40 degrés à l'ombre, vous me répondrez bien évidemment Vincent Perrot, que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Bonjour Vincent, merci d'être avec nous sur Melody Radio pour célébrer vos 40 ans de carrière.
Oh là 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 là, mais vous savez que c'est grâce à vous que je l'ai su ça, parce que j'ai pas une affinité extraordinaire avec les dates. Alors autant, quand il s'agit de trouver la date d'un film et tout ça, en général, là, je suis assez balèze là-dessus. Mais les dates anniversaires, c'est une catastrophe, la mienne comme celle des autres. Je suis pas date. Et quand vous m'avez dit, ça fait 40 ans, mais j'ai dit, mais 40 ans quoi? Ben, vos débuts à la télé, j'ai... Bon sang! Déjà, eh ben alors voilà. Donc merci de me le rappeler.
Bah écoutez, c'est normal.
Quand j'ai un problème de date, je vous appelle en fait.
Voilà, en tout cas sur votre carrière, puisque je crois que vous êtes très calé en date, mais sur le ciné.
Oui, uniquement, oui.
Avant de commencer cette émission, on a l'habitude de demander à nos invités le plaisir démodé de la chanson française. Une chanson que vous adorez, mais que vous trouvez quand même un petit peu démodée.
Alors, je peux hésiter entre plusieurs artistes, mais je vais vous dire Mike Brandt. Je vis la vie que j'ai choisie.
D'accord.
Voilà. Mike Brandt, aujourd'hui, on en parle quand même beaucoup moins. Moi, j'ai toujours eu une grande admiration pour ce chanteur, pour sa voix extraordinaire, sa personnalité, le physique, tout. Et puis, c'est une chanson qui m'a toujours parlé. Ça dit « Je vis la vie que j'ai choisie, je prends tous les risques. Après, tous mes amis sont des fous de la musique. » C'est sur la passion de faire son métier pour lui, même si c'est pas lui qui avait écrit le texte, mais je me suis toujours senti très proche de ça. Mais aujourd'hui, quand on dit « j'écoute Mike Brandt », on vous regarde, hein?
Il y a de belles chansons, Pelicita, Arava...
Mais il y a des chansons magnifiques,
Laisse-moi
Mais aujourd'hui, vous me demandiez quelque chose d'un tout petit peu passéiste. Il me semble que Mike Brandt rentre bien dans ce cadre-là.
Mike Brandt, bah écoutez, c'est le choix de Vincent Perrot. En tout cas, on va revenir sur votre carrière, sur vos 20 ans chez RTL. Mais vous avez commencé dans les années 80, puisque vous étiez un grand fan de cinéma. Et j'ai noté... J'ai noté que vous étiez tellement fou de ce cinéma que vous écriviez à Jean-Marie Masse qui animait une émission radio sur Radio France.
Oui, sur Radio France.
Alors, racontez-moi vos débuts.
Alors, c'était Radio France, oui. C'était même avant ça FR3 Limousin Poitou-Charentes.
Ah, d'accord, ok.
Ça émettait sur toutes. Ça faisait 9 départements. C'était assez important. Mais le siège était à Limoges. Et c'était très fun, ouais, parce que. Moi, j'étais collégien, enfin, j'étais ado, hein, et déjà, j'avais la passion du cinéma. Ça m'a pris vers l'âge de 7-8 ans, la passion du cinéma. Okay. Donc, j'aimais déjà beaucoup ça. Et j'écoutais cette émission, qui était un magazine de cinéma, animé par des adultes, dont Jean-Marie Masse était le rédacteur en chef. Okay. C'était une voix magnifique. Hein. C'était vraiment la voix de la station, une voix superbe. Ce qu'on appelait un organe de radio extraordinaire. Et c'était des adultes qui dissertaient sur le ciné. Et puis j'écoutais ça, parce que ça m'intéressait beaucoup. Et puis un jour, c'est vrai que, un petit peu sur l'insistance de ma mère, qui m'a dit « mais ce que tu me dis là, écris-leur !» Parce que je trouvais quand même que c'était trop les adultes entre eux, et que la voix de la jeunesse était systématiquement oubliée, alors que c'était quand même beaucoup les jeunes qui allaient déjà au cinéma. Et je lui ai dit, et je crois que ça l'a amusé, parce que la semaine d'après, il a lu ma lettre à l'antenne. Enfin, moi, j'arrivais du collège, c'est ma mère qui me dit « Ils viennent de lire ta lettre à l'antenne !» Hein ? Quoi ? Ah, bon ? Donc, je lui demandais, quand je ne pouvais pas écouter les émissions parce que j'étais à l'école, de me les enregistrer sur mon radiocassette Continental Edison.
Ok.
Vous n'avez même pas connu
ça. Non, moi, je ne pense pas.
Eh ouais, vous voyez. Et j'ai entendu ça. Et une heure après, Jean-Marie Masse me téléphonait en me disant « Je voudrais bien vous rencontrer. » Mais je n'avais pas donné mon âge, j'ai dit que j'étais jeune. Mais il pensait pas que j'avais
15 ans,
15 ans ouais, et que j'en faisais 12, parce que je faisais jeune, et enfin, je faisais gamin, quoi. Et on s'est vus, et dès notre première rencontre, il y a quelque chose qui a matché. J'ai fait, dès la semaine d'après, partie de l'émission, et je suis devenu la voix de la jeunesse dans son émission, comme je le lui avais suggéré. Mais c'était hallucinant, cette réactivité.
Donc vous êtes tombé là-dedans par hasard, finalement.
Ah ben,
dans le journalisme, dans le cinéma.
Alors,
d'une passion, vous en avez fait un métier.
Est-ce que le hasard existe? Est-ce que cette petite intuition de dire « ça suffit, les adultes qui parlent de cinéma entre eux et ma mère qui me dit « écris-leur » » Est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est le destin? Je ne peux pas vous dire. En tout cas, ça a été l'un des plus grands bonheurs de ma vie, puisque c'est de là, évidemment, que tout est parti. Bien
ouais.
sûr. Bien
Et
sûr.
Après, vous débutez à la télévision, en tout cas sur FR3 Limoges.
Voilà. Là, c'était devenu... c'était toujours FR3.
Ouais.
Mais il se trouve que la responsable des programmes de la station de radio est devenue ensuite, au moment du développement des programmes de la télévision, comme ça a été le cas dans plein de régions de France à l'époque, hein, est devenue aussi la responsable des programmes de la partie télé. Et comme entre-temps... En plus de cette émission de cinéma, j'avais ma propre émission qui parlait de cinéma et de musique. Quelle okay. coïncidence !
On y reviendra toujours.
Je quitterai finalement jamais ça. Elle m'a dit, viens faire la même chose, mais à la télé.
D'accord.
Parler de cinéma, de musique, de tout ça. Donc je faisais les deux. C'est-à-dire que j'étais quand même collégien et j'avais deux émissions, radio, télévision, tout en suivant mes études. Sur FR3 Radio et FR3 Télé, ouais.
Et est-ce que
ouais.
c'était ça, Jean et Basket?
Oui, c'était le nom de cette... à la radio, il y a eu plusieurs émissions. Ça s'est appelé Des Mélodies pour l'Image, ça s'est appelé Weekend Magazine, ça
okay.
s'est appelé... Bon. Et à la télévision, oui, ça, c'est ça, Jean et Basket. J'avais une co-animatrice très sympa qui s'appelait Catherine. Et on parlait que de musique, de cinoche, d'invités, de tout ce qui fait que tout ce que j'aime dans la vie, quoi. Ouais, jean et basket, c'est ça, ouais.
Jean
ouais.
et basket. Et puis après, d'une télévision locale, FR3 Limoges, vous passez à France 3. Et il y a eu plein de projets, mais bien sûr, celui qu'on vous retient, c'est 40 degrés à l'ombre.
Ah là là.
Alors, écoutez, ouais. pour ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent en podcast sur Mélodie Radio, dites-moi ce que c'était 40 degrés à l'ombre. C'est concept complètement fou de partir de vacances, de station balnéaire en station
ouais,
balnéaire.
C'était une idée formidable qui est née du fait qu'il y avait ce qu'on a appelé les après-midi de la 3. C'était un peu la démarque de ce que faisait Christophe de Chavannes avec C'est encore mieux l'après-midi, en fait. Et une grande dame de télévision qui s'appelait Sabine Mignot, qui avait travaillé d'ailleurs avec de Chavannes, a monté une idée d'après-midi de la 3, comme ça. Ça s'est fait avec Caroline Tresca. Certains de nos auditeurs, de vos auditeurs, se souviennent d'elle, probablement. Elle a eu une carrière courte,
okay.
mais très forte. Mais elle ne l'a pas fait longtemps, genre un an ou deux. Et j'ai pris la suite de Caroline. Donc j'ai fait les après-midi, mais ça durait toute l'année. Et puis il y a eu une envie de se dire que ce serait bien que cette émission existe pendant toutes les saisons, les quatre saisons, et qu'il y ait une version estivale de cette émission. Mais c'était quand même 2 heures en direct tous les jours en extérieur.
Et dans toute la France.
Dans toute la France. En général, ça partait de Bretagne pour aller jusqu'à Menton, quoi. Hein, ça faisait.
D'accord.
Ouais, de la Bretagne, côte atlantique, la côte basque, les Pyrénées-Atlantiques et on terminait sur la côte
Chaque
d'Azur.
Chaque saison, c'était le
ouais,
même
ouais.
parcours.
Ouais, ouais, c'était. Bon, c'est ça. C'est, toutes les côtes françaises, toutes okay. les plages, quoi. Et Caroline a fait ça un an ou deux, je crois. Et puis là aussi, elle est partie. Et puis j'ai pris la suite aussi. Donc c'était la continuité de l'émission qui se passait à la SFP à Paris, mais à ciel ouvert, chaque semaine dans une ville différente, avec des invités différents. Tout le monde venait de Paris. C'était une équipe de fous. Hein. On,
oui.
on était 80 techniciens là-dedans. 2 heures de direct sur le réseau national, avec un podium sur les plages. Et la mer derrière, et puis... voilà, on vient vous voir pendant que vous êtes en vacances. Et chaque semaine, on changeait de ville et on descendait pour terminer sur la Côte d'Azur. Et c'était un concept génialissime.
Ouais.
Génial.
Et les spectateurs doivent s'en souvenir. J'ai vu, bien sûr, des archives, notamment avec Jean-Claude Van Damme, qui tourne encore
souvent. Elle était royale, celle-là.
Les fous rires de Patrice Lafont, ou encore, je ne sais pas si c'était avec vous, Annie Cordy, dans une poussette. Je ne sais plus,
Je pense que ça devait pas être avec moi parce que je crois que Annie Cordy dans une poussette, je m'en serais souvenu parce qu'Annie était une grande amie évidemment. Et ça, je m'en souviens pas alors que j'ai des souvenirs très très précis ouais. de toutes ces années 40 degrés à l'ombre. Johnny Hallyday venant à Antibes, Johnny a paralysé la ville tout un après-midi. C'est-à-dire que pendant qu'il était là, lui, il était venu par la mer de Saint-Tropez.
Ouais.
Il nous avait rejoint par la mer. Mais on l'avait pas annoncé pourtant. Hein. Mais
okay.
Ça s'est su. Johnny Hallyday, présent physiquement sur le plateau de 40 degrés à l'ombre, ça a paralysé Antibes Juan Lépin, je vous jure, pendant un après-midi entier. Il n'y avait plus de circulation possible parce que tout le monde venait se garer n'importe où. Ça, une hystérie collective.
C'était une
c'était
télé de liberté aussi, peut-être. En tout cas, dans le sens organisationnel. Vous me disiez tout à l'heure en off que vous partiez en moto.
Oui.
Vous faisiez toute la cote pour d'émission en émission, de station en station. C'est une émission. C'est un programme qui manque aujourd'hui.
Oui, complètement.
Ce genre de choses très légères.
Léger. Pas,
pour le public.
Pour le public.
Je me doute que la réelle.
Voilà, parce qu'ensuite, en termes d'infrastructure, je vous assure que c'était trois plateaux à chaque endroit. C'était une très, très grosse production, mine de rien. J'ai toujours en mémoire ces kilomètres de câbles que tous les cadreurs et leurs assistants devaient dérouler pour aller d'un plateau. C'était une très grosse structure, ça coûtait cher, mais ça marchait très fort en audience. C'était une télé de l'âge d'or, un peu, de la fin de l'âge d'or. Une grosse chaîne nationale pouvait se permettre ça, surtout avec les retombées qu'on avait et les audiences que ça faisait. Et puis, il y avait, cette légèreté, cette liberté dans une structure quand même extrêmement précise, parce que deux heures de direct, ça ne s'improvise pas. Hein.
Bien sûr.
C'était très préparé.
Et en extérieur.
Surtout en extérieur. Parce que qui dit extérieur, même l'été, dit de temps en temps, solution de repli, on a pris des orages, des averses, on a tout eu. Du direct, en plus. Mais je ne sais pas si aujourd'hui, beaucoup de gens de télévision auraient, entre guillemets, le courage de se dire, on part pour deux mois en extérieur, en
tournée,
direct.
Ouais.
Avec tout ce que ça représente, d'incertitude quand même, tous les jours des artistes différentes, qui venaient en train, en avion. Là, c'était très, très... On travaillait là-dessus presque six mois, avant le début du mois de juillet. Hein.
D'accord.
Ah ouais, c'était une très grosse machine, mais qui donnait une impression, comme vous le dites, très justement, de légèreté, de liberté, presque d'improviser, alors que c'était
un
tout le contraire.
De...
Ah, c'était un gros, gros boulot. Quand on me disait, tu pars en vacances pour deux mois faire de la télé, je disais, ouais. C'est l'impression que ça donne, mais croyez-moi, c'est quand même du travail. Un travail génial, mais c'était un gros boulot.
Il y a un gros boulot et une grosse partie de votre carrière, en tout cas, qu'on va évoquer tout de suite. Tout à l'heure, j'ai dit 20 ans sur RTL, mais c'est pas ça. C'est 20 ans dans une émission sur RTL.
Oui.
Ça fait plus longtemps que vous êtes sur
21
RTL.
21 ans de grosse tête, oui.
Voilà.
Ouais.
Bah écoutez, la surprise est manquée, mais en tout cas, pour nos auditeurs...
Mince, pardon.
On va envoyer la musique juste pour le plaisir un peu des grosses têtes. Les grosses têtes.
Ouais. Et alors ça commençait en général après ça par « Bonjour, eh bien aujourd'hui vos grosses têtes avec un tel, un tel, un tel. » Et
de Philippe Bouvard, vous voyez peut-être dans le studio derrière moi ou derrière Vincent Perrault, oui, 94-2014, vous nous en avez raconté des blagues et vous nous avez amusé avec toute cette grande équipe. Moi je me souviens, petite personne, que j'écoutais les grosses têtes en folie. Quand c'était plus léger, où vous partiez dans des délires sur la chanson, sur les vacances.
Grosse tête en folie, il y avait un thème.
Voilà.
Un thème, et puis ensuite, on s'amusait et ça partait comme ça.
Comment avez-vous rejoint cette institution ?
Ah, je peux vous le dire très précisément, parce que ce ne sont pas des choses qu'on oublie. Je m'en souviens très, très bien. Ça part déjà d'une grande admiration pour Philippe Bouvard. Normal. Les gens de ma génération, tous les grands de la télé, Jacques Chancel, Pierre Tchernia, en plus le cinéma, Monsieur Cinéma, bon, etc. Philippe Bouvard, les émissions du samedi soir, Michel Drucker, les rendez-vous du dimanche, tout ça, bon, ça nous parle. Et j'avais envie de rencontrer Philippe Bouvard, ce qui n'a pas été très compliqué, puisque comme il sortait un à deux livres par an, il avait une actualité permanente, je propose à ma programmatrice un jour de l'inviter dans mon émission de La 3. l'après-midi sur la 3. Il vient volontiers. Et puis, ça match entre nous. Ça se passe bien. Je le fais rire. Il s'amuse. Il passe un bon moment. Et alors, écoutez bien ce que je vais vous dire parce que ça s'est passé comme ça. L'émission se termine. Je vais le voir. Je raccompagne toujours mes invités jusqu'à la loge, au moins. Et là, il me dit, dites-moi, mon petit coco. Ça commençait comme ça. Je suis devenu ce jour-là son petit coco. Ça a duré 21 ans. Et enfin, c'est toujours vrai aujourd'hui, d'ailleurs. Hein, donc, et du moins 21 ans à l'antenne. Il me dit, on peut téléphoner ici? Alors, je lui dis, mais bien sûr, cher Philippe. Il me dit, mais venez avec moi. On va en régie. Je trouve un téléphone. Il me dit, restez avec moi. Ah bon? Ok. Il prend le téléphone. Et alors, je vous assure que la conversation, ça a été ça. Il appelle son bureau. Il fait, Véronique. Oui, c'est Bouvard. Dites donc, on a de la place mardi pour le petit Perrault. Bon, ben c'est pas grave, vous en faites. Très bien, allez, au revoir. Il se retourne vers moi, il me dit, voilà, mardi, vous venez faire les grosses têtes. Et il me dit, et je me souviendrai toujours de ça, et il me dit, en plus, vous allez peut-être faire deux émissions en une. J'ai dit, ah bon? Il me dit, oui, parce que vous allez peut-être en même temps faire la première et la dernière. Ah, ah je lui dis, ben charmant, c'est agréable. Il me dit, oui, on en fait une, on verra bien ce que ça donnera. En tout cas, mardi, vous êtes aux grosses têtes, 17h à RTL, 22 rue Bayard. Merci, mon petit coco. Et voilà, ça s'est fait en 3 minutes à la fin de la première émission qu'on a faite ensemble à la télévision.
C'est une super anecdote. Non,
mais c'est pas magique, franchement.
Ouais.
Et ça a duré 21 ans. De grosses têtes ininterrompues. C'est-à-dire que j'ai pas passé un an sans venir. Hein. J'y étais au moins une à deux fois par semaine pendant plus de 20 ans. Quoi.
Ouais.
C'est incroyable. Incroyable.
Et vous étiez le plus jeune dans cette bande.
Alors, je vais vous dire un autre truc qui montre quand même le côté un peu exceptionnel de la chose. Ouais. Parce que j'en ai vu beaucoup arriver, des nouveaux sociétaires des grosses têtes.
Bien sûr.
En dehors de tous les ténors... à côté desquels je me suis retrouvé, quelle chance.
Carlos, Balutin.
Jean-Yann, bien sûr. Zitrone, Olivier de Kersauzon.
Et oui, c'est vrai que Zitrone, il faisait les émissions dans les années 80.
Bien sûr. Jean-Yann, ça a été une de mes meilleures rencontres des grosses têtes.
Ouais.
Jacques Maillot, Bernard Mabille.
Ils sont restés à votre époque, enfin à votre époque, dans la deuxième partie en tout
absolument.
Cas aussi.
Donc tous ces gens-là dont j'ai connu la fin de ces grands ténors, Philippe Castelli, tout ça. Oh, j'ai une histoire. Bon, tous ces gens-là, je les ai évidemment approchés, connus, tout ça. J'en ai vu beaucoup arriver, j'en ai vu beaucoup repartir. Et je suis arrivé, j'étais le Benjamin, et vous me croirez si vous voulez. Enfin, vous allez me croire parce que je vous le dis, surtout.
Ouais, bien sûr.
Quand Philippe Bouvard a fait sa dernière émission...
Vous pleuriez, j'ai revu les images.
Ah ouais.
Vous étiez très ému.
Oui, c'est repassé il y a pas... J'ai été plus que jamais admiratif de lui d'avoir géré cette dernière comme il l'a fait. Et c'était 21 ans de ma vie quand même. Hein. Et puis je savais que j'arrêtais. Parce que il était hors de question de continuer pour moi avec quelqu'un d'autre.
Vous l'avez souvent dit ça.
Oui, c'était très clair. Et surtout, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que lors de cette dernière émission, j'étais toujours le plus jeune. Je suis arrivé, je ne sais plus en quelle année c'était.
94
80 si vous le dites. Je suis arrivé, j'étais le Benjamin.
Ouais.
Le jour de la dernière, j'étais toujours le Benjamin des grosses têtes, 21 ans plus tard. C'est quand même incroyable. Et il y en a eu des petits jeunes qui sont passés, hein. Mais je suis le seul à être resté. Et 21 ans plus tard, j'étais encore le plus jeune.
Et ça s'explique peut-être, vous l'avez souvent dit aussi, par votre relation avec Philippe Bouvard. D'ailleurs, j'ai vu des interviews dans lesquelles les gens vous posaient la question « Alors, il est comment ? Alors, il est comment ?»
C'est sans arrêt.
Sans arrêt.
Sans arrêt.
Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est qu'est-ce qui vous a apporté tant professionnellement que personnellement, Philippe Bouvard. Puisque tout le monde vous pose cette question sur votre relation, etc. Moi, j'aimerais bien savoir ce qui vous unit si fort.
Oui, alors, il y a plusieurs choses. C'est très émotionnel ce que vous me demandez là, parce que ça n'a pas été uniquement professionnel, notre relation. Ça a été l'essentiel, mais c'est-à-dire qu'on se voyait en dehors aussi, régulièrement. Philippe, en plus, habitait Cannes. Moi, j'habitais Grasse. Donc, on se voyait l'été. J'allais chez lui, dans sa famille. Je connais son épouse. Je connais ses filles. J'ai connu ses petits-enfants. On se voyait vraiment en dehors. Et il y a eu, j'ai eu plusieurs figures masculines comme ça qui ont été un peu des pères spirituels, des, je veux pas dire des seconds pères, mais des pères spirituels. Philippe en a été un. C'est-à-dire que Philippe Bouvard, quand j'avais des décisions importantes à prendre à titre personnel, je ne les prenais jamais sans aller lui en parler d'abord. Et après, je prenais ma décision. Ça allait dans ce qu'il m'avait dit ou dans un autre sens. Mais j'avais besoin d'avoir son avis et, pour savoir ce qu'il en pensait de ça. Donc, il y avait déjà ce lien affectif, un peu. Je pense qu'il m'a longtemps considéré un petit peu, il en a eu plusieurs sur différents aspects, mais un petit peu considéré comme le fils qu'il n'avait pas eu, puisqu'il n'avait pas de, il n'avait pas de garçon, Philippe, il a eu que des filles. Mmh. Donc, il y avait un petit côté, je crois qu'il aurait bien aimé avoir un fils un peu comme moi.
Okay.
Un peu frondeur, un peu fun, un peu, il comprenait pas pourquoi j'allais risquer ma vie à faire du drag, c'est-à-dire pourquoi je faisais de la moto, pourquoi, voilà.
Enfin, mais, lui, avec les Ferrari et tout.
Oui. Mais il comprenait cet amour pour les voitures sportives. Alors, quand j'arrivais chez lui avec ma voiture de K2000 et que ses petits-enfants qui regardaient la série se décrochaient la bouche et tout ça, ça l'amusait. Et en même temps, bon, il y avait... Voilà, on se comprenait formidablement et on avait un lien en dehors des studios. Et de radio et de télé, parce que les grosses têtes, c'était aussi la télé. Il ne faut pas oublier que ça a été inimaginable sur TF1, le carton le samedi soir. Des 9-10 millions de spectateurs, de téléspectateurs, quoi. Mais, pour finir de répondre à votre question sur ce qu'on s'est apporté, alors, moi, je crois que ce que je lui ai apporté, sinon il ne m'aurait pas fait venir, évidemment, c'était un peu comme avec Jean-Marie Masse à l'époque de Limoges, hein.
L'œil d'un jeune.
L'œil du jeune, parce qu'il n'y avait pas vraiment de jeune dans l'émission. Donc, je pense que dans Les Grosses Têtes, il a trouvé le petit jeune célibataire qui parlait de cul, qui était passionné par le cinoche, qui avait un petit peu de culture générale aussi quand même, et qui se trouvait, ce qui a été énorme aussi, c'est que j'ai été adopté par les anciens. Les anciens m'aimaient bien. Il y en a certains que je connaissais parce que je les invitais dans mes émissions.
Ok.
Ils voyaient bien que je pouvais un petit peu leur tenir la dragée haute. Donc, au moins, il y avait une voix plus jeune que les autres. Donc ça, il a beaucoup aimé. Et puis, en échange de quoi, ce que cette émission m'a amené, en dehors de fou rire monstrueux et de moments extraordinaires passés avec tous ces gens merveilleux, ça m'a permis, alors que j'avais quand même une image... très propre sur moi, de l'histoire du gendre idéal qui a collé au basque de Michel Drucker pendant longtemps, moi aussi, j'ai pu dire des cochonneries à la radio, à une heure de grande écoute, dans une émission où on pouvait encore le dire, même si une fois ça a failli me coûter un peu cher, mais bon, ça fait partie du jeu, quoi. Mais j'ai pu... non pas m'exprimer autrement, mais montrer une autre facette de ce que de j'étais vous. Réellement.
Oui, donc ça a été personnel, cette relation, et professionnelle.
Des deux côtés. Je lui ai amené quelques... De toute façon, 21 ans de collaboration, ça peut marcher que dans les deux sens. Hein.
Bien sûr.
Il faut. Donc voilà, je lui ai apporté ça, et lui, il m'a apporté cette façon merveilleuse de pouvoir me libérer et de dire des choses que je ne pouvais dire nulle part ailleurs, ni sur RTL, dans mes autres émissions, ni à la télé, encore moins à la télé.
C'était ça, les grosses têtes, cet esprit, en tout cas les grosses têtes de Philippe Bouvard, cet esprit de liberté, de gauloiserie. Il y avait une émission d'ailleurs, gauloiserie, galéjade et gaudriole, vous aviez fait. C'était ça, c'était...
Les 3G. Oui, c'est ça.
C'était un peu de la potacherie, mais de la finesse d'esprit.
Bah, je crois que le principe des grosses têtes, c'était on s'amuse, mais il faut un alibi culturel.
Oui.
Alors, les questions, c'était l'alibi culturel, parce que... Et c'était pas qu'un alibi, parce que c'était souvent très culturel et très pointu, parfois. Hein.
Jules Renard, non, je crois qu'il revenait souvent.
Jules Renard, ça, c'était...
C'est son idole,
une
je crois,
des grandes passions de D'ailleurs, si Philippe a écrit son journal, c'est aussi par rapport au journal de Jules Renard.
D'accord.
Mais pas que, parfois, enfin, on citait des auteurs et trucs dans une émission des grosses têtes où on pouvait parler de choses extrêmement légères, voire grivoises. Ben oui. La question d'après, c'était sur Cioran, le philosophe d'origine roumaine, qui n'était pas un gay luron. Hein.
Ouais.
Et bon, donc c'était ce mélange incroyable de on découvre des choses, on apprend des choses aux auditeurs, on apprend nous-mêmes aussi des choses. Et puis à côté de ça, on s'amuse et on raconte les choses, les pires potaches. Mais quand j'y repense,
mais il y a des compiles.
Ce qu'on
hein.
a pu dire, il y avait notamment les interdits des grosses têtes.
Oui, mais je ne sais pas s'il a... Alors, c'est sorti aussi en disque.
Oui.
Il y en a une.
En cassette. Moi, j'ai même une, cassette.
Ouais.
Une
cassette. Mais il y a des choses... Audio. Oui, c'est vrai, ça ne passerait plus.
Il y avait des choses que même à ce moment-là, on ne pouvait quand même pas dire. Mais nous, on s'en foutait parce que, comme les émissions étaient enregistrées, Philippe nous disait bien... Allez-y, si c'est nous qui ferons le travail, si on juge que c'est trop ou pas assez, on a des ciseaux pour ça. Donc, ne vous limitez pas.
Ouais.
Non, mais vous imaginez avec des gens comme Jean-Yann et tout ça, leur dire ne vous limitez pas. Bah, alors là, évidemment, ça pouvait atteindre des sommets.
Ça partait. Non,
donc, ça devenait les interdits des grosses têtes. Ce qui n'était pas possible pour la radio, bah, c'était en dehors de la radio. Et voilà, donc non mais aujourd'hui, j'écoute régulièrement les grosses têtes de Laurent, bien sûr, de Laurent Ruquier, que j'apprécie et qui m'invite de temps en temps comme ça pour des questions plus d'actualité. J'écoute et je sens bien parfois que là c'est limite déjà et que ça peut pas aller plus loin et qu'il y a des choses, tu peux plus, tu peux plus. Ouais. Et sur plusieurs sujets, hein. Donc, qu'est-ce qu'on a bien fait de vivre ça à ce moment-là et de le dire à ce moment-là, tout ça.
Et vous parliez tout à l'heure d'un lien filial avec Philippe Bovard, professionnel.
Ouais.
Pourquoi ne pas avoir, j'aime pas trop ce terme, mais allons-y, pris sa succession. Pourquoi avoir pas repris le flambeau après?
Alors, d'abord...
Vous est-il...
Ouais, alors, pour tout vous dire, il en a été question.
Ok.
Ça a été abordé, mais... je ne me voyais pas meneur de troupe après avoir fait partie de la troupe. Et puis, vous voyez, c'est difficile d'être jugé parti, quoi.
Et on vous aurait comparé à Bouvard.
Et puis j'aurais été de toute façon forcément très, très en dessous de mon maître, obligatoirement.
D'accord.
Et puis, je crois que ce qu'il fallait, c'était trancher net. Et RTL, je pense, a eu tout à fait raison de garder la quintessence du concept, mais il fallait tout changer. Je pense qu'il ne fallait pas faire à moitié avec recommencer avec quelqu'un d'autre, mais une partie des anciens. Non, si Philippe s'arrêtait, il fallait que ce soit autre chose. Mmh. Et Laurent Ruquier, c'est autre chose. Il est venu avec sa troupe au début, il y en a eu quelques-uns, ça n'a pas duré longtemps, on savait bien hein, que ça n'allait pas durer longtemps.
Bien sûr.
Moi, je pense que RTL a fait, moment où cette décision-là a été prise, il fallait faire tout autre chose. Et la preuve, c'est que ça a marché très très bien.
Oui, et quand ils avaient fait une espèce de continuité, dans le même format avec De Chavannes, ça n'a pas duré 2 mois.
Non, parce que...
Et Bouvard est revenu en grand...
Parce que ça avait été mal fait.
Ouais.
Ça avait été très mal géré.
En l'an 2000.
C'est devenu un cas d'école journalistique, hein, l'histoire. Ça s'étudie dans les écoles, hein, ça, cette histoire.
J'aurais bien aimé apprendre ça à l'école.
Cette mauvaise gestion des choses a coûté cher à certains.
Les grosses têtes, c'est un pan de votre vie, un grand pan.
Ah oui, oui.
21 ans.
21 ans, c'est une génération déjà. Hein. Je suis arrivé minot, je suis reparti... J'ai appris de ce que je voyais, de ce que j'écoutais, de ce que j'entendais, de ces grands professionnels. Dans chaque émission, j'apprenais quelque chose. Hein. Moi, j'essayais de leur amener des choses aussi, des choses de ma génération. Je leur faisais découvrir des choses qu'ils avaient des enfants trop grands, ils ne voyaient pas, ils ne savaient pas, ils ne comprenaient pas. Mais ça a été une école extraordinaire, en plus de ce que je faisais par ailleurs et à la télévision et à la radio, mais c'était vraiment une récréation, quoi. C'est gros, c'était l'époque, vous imaginez, on avait le droit de boire du vin pendant les émissions, les gens fumaient dans les studios. Moi, j'ai jamais fumé, mais je bois un petit peu, mais je ne fume pas. Mais la liberté, c'est inimaginable aujourd'hui, tout ça. Et pourtant, c'est pas si vieux que ça, mine de rien. Hein.
20 ans. Non, 10 ans. Un petit, 2014.
Voilà, bon. C'est fou comme cette société a évolué. Hein, c'est fou quand même.
Et je disais, c'est un pan de votre vie, mais il y en a un qui reste très présent. Et on va en parler. D'ailleurs, peut-être là aussi, on le voit autour de moi, c'est le cinéma.
Oh, bah,
vous êtes un mordu de cinéma.
C'est ma vie, oui, oui. Ouais.
Et il y a un acteur en particulier. Bon, il n'y a pas de surprise, parce que vous avez même réalisé un documentaire avec Jeff Domenech, Belmondo itinéraire.
Je l'ai réalisé seul. On l'a conçu avec Jeff,
okay,
mais
vous l'avez...
je l'ai réalisé tout seul.
C'est le cinéma. Bon, Jean-Paul Belmondo qui est votre idole.
Bonjour, charmant chez vous. Vous voyez, je l'imite pas mal.
Ah oui, vous le faites très bien.
Oui, on va. J'avais le modèle à côté de moi, donc c'était pas dur. Hein,
ouais. En plus, il était souvent dans le sud de la France.
Oui.
Comme,
Absolument.
Là où je veux en venir, c'est que représente en fait ce cinéma pour vous, de Gabin, de Ventura, de Delon et bien sûr de Belmondo.
Alors,
ces piliers de notre cinéma.
Je crois que c'est comme vous le dites, c'est un vrai pilier du cinéma français. C'est une partie, c'est probablement une des parties les plus populaires de notre cinéma. Une des périodes où les gens sont le plus allés au cinéma. En allant voir des grands films populaires avec des vedettes qu'ils aimaient, un cinéma jouissif, que ce soit de la comédie au polar, au film psychologique, il n'empêche que c'était quand même toujours de bonnes histoires avec de grands comédiens réalisés par de grands metteurs en scène. Ça donnait
des
grands films.
Des films de Verneuil qui n'étaient parfois pas très joyeux non plus.
Au moment où vous le dites, j'étais en train de penser au Clan des Siciliens.
Ben voilà.
Vous voyez, tout d'un coup, mais c'est vrai avec Mélodie en sous-sol ou Le singe en hiver, etc.
Ah ouais.
Alors, il se trouve que moi, je suis né en 65. J'ai commencé à vraiment réaliser ce que c'était à partir de l'âge de 10 ans. J'ai commencé à aller vraiment beaucoup au cinéma dès l'âge de 10 ans.
Avec Peur sur la ville.
Ma petite ville de Charente, ben, ça tombe pile poil.
Ouais, c'est ça.
74, 75, 9, 10 ans, c'est ça. C'est l'année de Borsalino & Co. C'est l'année des Saintes Glaces de Lautner avec Delon et Mireille d'Arc et Brasseur. C'est l'année de Peur sur la ville. Voilà. Moi, je tombe dans le cinéma, dans ma petite ville de Charente, puisque j'habitais là encore à ce moment-là, plus pour très longtemps, mais c'était le moment, je tombe dans ce cinéma-là. Les films de Jacques Deray, d'Edouard Molinaro, de Georges Lautner, tout ça, de Pierre Granier de Fer, le Toubib avec Delon, tout ça, quoi, et La race des seigneurs. Et je découvre, en fait, le cinéma, en dehors des petits films qu'on voyait à la télé, mais vous savez que... Tant mieux pour vous, vous êtes trop jeune. Mais il faut quand même se rendre compte que la vidéo n'existe pas à ce moment-là. Il n'y avait même pas de magnétoscope encore. Hein.
Ouais, c'est les salles.
Les films qu'on pouvait voir quand c'était ou parce qu'un cinéma faisait des reprises l'été, ou des cinémathèques dans quelques grandes villes, mais Toulouse, Lille peut-être, Paris, Nice, je ne suis même pas sûr. Mais sinon, les films, on les voyait pas. On les revoyait pas, il y avait la séquence du spectateur à la télé qui vous donnait. C'était très difficile de revoir des films, très très dur.
Et donc vous êtes tombé là-dedans à l'âge de 10 ans.
Donc je tombe dans l'actualité du cinéma, et là évidemment, mais ça me parle, je dis, mais ça m'envoûte.
Ouais.
Ce cinéma-là, des années 70, là... m'envoûte, et puis ça tombe, on tombe en pleine émancipation sexuelle.
La gifle, on parle de ce
genre. La gifle, Claude Pinoteau, bien sûr.
Après, avec la boum aussi.
Alors, la boum, je pourrais vous en parler, parce que je suis allé sur le tournage du film. Et donc là
on aurait trois heures d'émission.
Les choses ont commencé, là, sérieusement pour moi. Mais l'explosion d'Isabelle Adjani.
Oui.
Et puis, Emmanuel.
Oui.
Alors...
Il y a eu un remake récemment, je crois.
Oui, alors.
Je ne l'ai pas vu. Hein,
ni fait ni à faire.
Bon, très bien, passons.
Sans intérêt.
L'émancipation.
D'ailleurs, même pas 100 000 entrées, quoi. Donc, la preuve. Vraiment, ouais. Ça n'a intéressé, mais personne. Emmanuel, c'était intéressant à cette époque-là, pas
bien
aujourd'hui, où on en voit mille fois plus sur Internet, quoi. Ça n'a aucun intérêt. Donc, la libération d'un certain nombre de choses. Moi, j'ai 10 ans. Les films sont interdits au moins de 18 ans. Alors, okay. Qu'est-ce que je fais ? eh ben je vais dans la salle de dans la salle de projection de cette salle de cinéma à Confolens. Et puis sur la pointe des pieds, je regarde un petit peu par le carreau ce que je peux pas aller voir dans la salle, j'ai pas le droit. Je regarde un petit peu du coin de l'œil comme ça depuis à côté du projecteur.
Ok.
Parce que vous avez vu Cinéma Paradiso, le film Cinéma Paradiso?
Alors mon meilleur ami va m'engueuler, mais non, faut que je le voie.
Ah, il faut, c'est une obligation.
Il me dit que c'est son film préféré.
Ah bon?
Eh ben. Avec Le Parrain.
C'est l'histoire d'un petit garçon qui découvre le cinéma avec Philippe Noiret qui est projectionniste. Bah le petit garçon, honnêtement, replacé dans le contexte, cherchez pas, c'est moi.
Vous.
C'est moi, voilà.
Okay.
C'est à peu près ça. Voilà.
Et ce cinéma-là, de grand nom, que vous avez découvert jeune, ce cinéma de... Alors, Ventura aurait dit c'est des histoires d'hommes. Mais...
Oui, pas que, hein, parce qu'il y avait des comédiennes.
Avec un grand H, je pense.
Là, voilà, Mireille Darc, Annie Girardot, Catherine Deneuve.
Ah, magnifique, pour
c'était
en parler.
C'était un cinéma d'hommes dans lesquels les femmes, heureusement, avaient une bonne place.
Bien sûr. Bah, voilà. Annie Girardot avec mais... Bébel.
Un homme qui me plaît.
C'est ça. L'homme qui me plaît, ou avec Ventura. Bon, dans la gifle, c'est plus comique. Mais bref, ce cinéma de.
Mais Deneuve, Delon, un flic de Melville, tout ça. Enfin, il y a toujours eu aussi des femmes dans ce cinéma d'hommes, heureusement.
Oui, bien sûr.
Mais c'est vrai, faut reconnaître que
ces histoires-là, est-ce que ça manque aujourd'hui? C'est ça que je veux vous dire.
Mais ce qui, alors, il y a
des histoires légères. Pardonnez-moi, il y a des histoires légères aussi, comme Le Sauvage. J'y repense là. Vous parlez de femmes avec Deneuve et Montand.
Montand, Deneuve, Jean-Paul Rapneau. Pareil, 75. On est dans ces années-là. Hein.
Mais ce que je voulais
tout
vous
ça,
dire,
je l'ai
c'est
vu là-bas.
Ces histoires
mais évidemment que ça manque.
Fortes, ça manque aujourd'hui.
Il n'y a pas que ça qui manque. C'est-à-dire que c'est autre chose.
Ouais.
Il y a encore des films enthousiasmants aujourd'hui. Mais ce qui manque vraiment, ce sont les acteurs de cette trempe-là.
Oui.
Les histoires, c'est ce qui pourrait manquer le moins s'ils avaient un peu plus d'imagination. Mais ce qui manque, ce sont ces réalisateurs-là, ces comédiens-là, dans ces histoires-là.
Et des dialoguistes,
voilà.
Peut-être.
Avec, c'est ça, avec ces scénaristes-là et ces dialoguistes-là. Audiard, Bertrand Blier, qui vient de nous quitter... Mmh. 74 dont on parlait,
les
75, c'est Les Valseuses.
Ouais.
C'est un tout nouveau cinéma qui arrive.
Bien sûr.
Je l'ai vu sur la pointe des pieds, Les Valseuses, derrière dans la cabine de projection. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça manque. Alors d'abord, ça ne manque qu'à ceux qui ont connu ce cinéma-là et qui l'ont découvert.
Pas forcément, regardez. Il y a plein de jeunes qui connaissent par cœur, et là, je vous en mets ma main à couper. Les répliques des tontons flingueurs.
Oui, parce que merci la vidéo. Quoi.
Les consa,
merci,
voilà, les consa
les DVD,
hostou.
Merci les plateformes, merci. Mais évidemment, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Mais c'est heureusement qu'il y a tout ça.
Ouais.
Mais il faut, soyons clairs, si vous n'avez pas un peu cet amour du cinéma et de la curiosité, vous avez,
c'est
contrairement
vrai.
À moi, à mon âge, la possibilité de tout voir ou quasiment tout extrêmement facilement.
Ouais.
Vous allez à la Fnac, vous pouvez tout acheter. Vous allez sur des plateformes, vous pouvez revoir un nombre de films. Vous allez sur Internet, on y voit des choses pirates avec des copies de VHS de l'époque. C'est-à-dire que j'ai l'impression que plus on a cette possibilité de tout voir, et c'est vrai en musique aussi, moins on est curieux.
C'est vrai.
Alors qu'à l'époque, on était curieux, on n'avait rien, et il fallait se débrouiller pour voir, pour se forger une cinéphilie à la force de l'imagination et du poignet et des voyages dans les cinémathèques. Aujourd'hui, on a tout. Mais je crois que la jeunesse d'aujourd'hui, enfin, la génération que j'étais aujourd'hui, s'en foutent du cinéma. Ils consomment du cinéma, ils vont voir des Marvel, ils vont
oui.
de temps en temps...
Et les séries aussi ont fait beaucoup de mal.
Des séries, bien sûr. Mais des séries, à l'époque, il y en avait.
Et même maintenant, il y a des séries très bonnes.
Mais oui, mais les séries...
Encore aujourd'hui.
On a l'impression de se dire, aujourd'hui, tiens, on fait des séries. Mais bon, moi, à l'époque, les séries, c'était Chapeau Melon et Bottes de Cuir... Les mystères de l'Ouest, y avait des émissions, La Une est à vous le samedi, c'était un après-midi entier de séries. Il y en avait déjà des séries,
okay.
C'est pas pour autant que ça faisait du mal au cinéma. On les voyait à la télé. Bon, maintenant, on peut les acheter en DVD, on achète une saison entière, c'est génial.
Oui, on le regarde sur les plateformes.
Très bien, ouais. Mais on peut tout avoir aujourd'hui, mais il n'y a pas beaucoup de curieux dans cette génération qui, de temps en temps, oui... Vous leur montrez un film en noir et blanc, je vous assure, ils ont peur un petit peu, quoi.
Ouais.
Alors, c'est un peu problématique. Mais je pense que l'époque veut ça. Sauf que on était, dans les années 70, beaucoup plus curieux du cinéma d'avant.
Mm-hmm.
Mais c'était peut-être parce qu'on avait beaucoup de mal à le voir. Aujourd'hui, c'est tellement facile. Que finalement, c'est peut-être pas très intéressant, quoi. Mais c'est vrai en musique, hein.
Ben, j'aimerais y venir sur la
culture,
musique.
C'est...
J'aimerais vous en parler de cette musique de cinéma, puisque vous avez écrit un livre aussi.
La musique de film, ça c'est autre chose. Mais...
Oui, voilà, ouais, parce que vous parliez de...
Je parlais de la musique au sens large, de la chanson,
bien
des
sûr.
Artistes et tout ça.
Mais il y a des albums autour de nous, il y en a même à l'autre bout de la table, des bandes
je
originales.
Je vois de très belles choses autour de moi d'ailleurs.
C'est quoi, c'est le Ruffian là-bas?
Ça c'est le Ruffian, oui, musique d'Ennio Morricone.
Vous avez derrière la 7e cible, bref.
Ouais. Vladimir Cosma, mon cher Vladimir Cosma.
Et oui, c'est ça, mais c'est ce qui m'intéresse dans votre histoire, c'est quelle importance vous accordez à cette musique du cinéma. Vous la raffolez, vous avez rencontré les plus grands, vous les avez presque tous interviewés, dont Ennio Morricone pour un documentaire, si je me trompe.
Oui, c'est vrai.
Pour un documentaire, qu'est-ce qu'elle a cette musique de cinéma? Qu'est-ce qu'elle apporte de plus à une œuvre? C'est une question un peu bateau, mais pour moi qui est essentielle.
Ah non, elle n'est pas bateau du tout, parce que... Je m'en veux même quand vous m'avez dit qu'est-ce qui manque dans le cinéma et que je vous ai dit les comédiens, les histoires, les deux. Je m'en veux de même pas vous avoir dit et les musiques,
musiques
de l'époque.
Ouais.
Parce que là, pendant, franchement, toutes les années 70-80, c'est toute la musique de film qu'on écoute encore aujourd'hui. Les musiques de Philippe Sardes, d'Ennio Morricone, de Francis Lai, de Michel Legrand, de Claude Bolling, etc. C'est de Vladimir Cosma, bien sûr. Ces musiques font partie intégrante des films. Je prends au hasard Les Loups la cuisse.
Ouais.
76. Vous voyez que je connais les dates quand c'est pas
cinéma.
Pour moi. Quand c'est 76. Les Loups la cuisse. Le grand retour de Funès.
Ouais.
La nouvelle génération qui arrive. Coluche. Qui explose au grand public grâce à ce film. Claude Zidi. Quel metteur en scène de comédie fantastique. Il y avait Julien Guillaumard, Philippe Bouvard, tiens, qui jouait un petit rôle dans L'aile ou la cuisse. L'aile ou la cuisse aujourd'hui, vous en parlez. Autant que Coluche et de Funès, plein de gens vous disent ta 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 ta
ta
ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta entrait dans les mémoires, il y avait des disques, on les achetait. Et
à chaque fois, je crois que Cosma avait un autre instrument pour chaque film. Il ne reprenait pas les mêmes.
La plupart du temps, un instrument soliste qui était
différent.
Une couleur marquante. Ouais. Oui, ça, c'était sa grande marque de fabrique, en effet. Pas à chaque fois, parce qu'il a fait 500 films, il ne peut pas y avoir 500 instruments. Mais ça faisait partie de ces trucs-là. Et la musique de film, mais elle est prépondérante. Parce que... Mettez-vous deux secondes à ma place. J'ai 10 ans, je vais voir Peur sur la ville au cinéma. Minos.
Ouais, avec son œil
de verre. Et puis surtout Jean-Paul qui court sur les toits, sur le toit du métro. Moi, j'ai commencé à cause de lui, je lui ai dit, à grimper sur le toit de ma propre maison et à faire des conneries comme ça parce que je le voyais faire et que voilà. Et la musique d'Ennio Morricone. Tan, 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 tan. Dès les premières notes du film, cette musique, elle nous a tous angoissés. Elle préfigurait l'arrivée de Minos alors qu'il ne s'était encore rien passé, c'était que le générique de début.
Ça en dit long, comme dans la 7e cible, où il y a le concerto pour Berlin, où il y a la voiture qui va rentrer dans le... Enfin, je ne vais pas raconter la fin pour ceux qui...
Non, le dites pas, on ne sait jamais.
Enfin bref, donc oui, c'est quelque chose de prépondérant.
Évidemment.
Et votre livre, c'était...
Bof.
Ouais,
alors moi, je me faisais un plaisir de l'appeler Bof, parce que mon éditeur m'a dit, mais tu ne vas pas appeler un livre Bof. J'ai dit, mais si, c'est bande originale de film.
Ouais.
Tout le monde va se demander ce que c'est que ce livre qui s'appelle Bof. Et musique et compositeur du cinéma français, c'était le sous-titre.
En tout cas, le cinéma, vous en parlez aussi tous les week-ends sur RTL de 4h30 à 6h.
Oui.
Et sur votre chaîne YouTube Pop Ciné, Pop Cinoche, où vous rencontrez, je crois que la dernière, vous avez fait Jean-Marie Poiré, je suis allé regarder avant.
Alors, il y a eu Jean-Marie Poiré, il y a eu Daniel Auteuil après, il y a eu... Et puis là, la dernière émission qui est en ligne depuis quelques jours, c'est avec Valérie Caprisky.
D'accord.
Qui a été une des grandes icônes du cinéma français des années 80-90. Tous ceux qui ont vu L'année des Méduses... La femme publique, À bout de souffle Made in USA avec Richard Gere, etc., ne l'ont jamais oublié. Hein, quand on l'a vu une fois dans tous ces rôles-là, La Gitane avec Claude Brasseur.
J'ai pas vu, mais...
Valérie Caprisky, c'était à l'image de Mathilde Amet, de Sophie Marceau, etc. Quoi.
Eh ouais, mais en tout cas, c'est ce cinéma, ces grosses têtes, vos...
Ah, c'est une belle époque, hein.
Votre carrière.
Et ça n'est quand
et
même
continue,
pas si vieux.
Puisque vous en parlez encore.
Mais
vous
oui, la preuve,
Pop Sinoche.
C'est ça qui est bien. Ce qui sera embêtant, c'est si j'avais 80 ans et que, vous, et que je vous disais, oh bon Dieu, c'était pas mal. Là, c'est quand même, on en parle encore aujourd'hui. Et puis, en plus, ça devient un peu culte, vraiment,
oui.
Tout ça, quoi. Et heureusement que, pas uniquement par ceux qui l'ont vécu, il y a quand même des curieux qui se disent... Il y a aussi ceux qui disaient « Ah, la vache, il se marrait bien à ce moment-là. » Et puis surtout, ceux qui commencent à réaliser, ils disent mais ils avaient des... Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, oui, c'est bon.
Hein, ils en avaient une bonne paire de,
oui, mais non, mais
pour faire ça et pour pouvoir dire ça.
Ouais.
Et là, Bertrand Blier est un des grands représentants. Il vient de nous quitter.
De ce
c'est des pages qui se tournent, mais... Mais les valseuses à l'époque, c'était quand même quelque chose. Beau-père, pareil. Enfin, ils osaient des choses. Et donc, ça fait un peu l'admiration d'un certain nombre de gens qui se disent il y a des choses à découvrir quand même dans ces années-là, franchement.
Eh bien, allez le découvrir sur Pop Sinoche, la chaîne YouTube,
oui,
sur les réseaux
on en parle beaucoup, oui.
De Vincent Perrault.
Oui, c'est sur Facebook, sur YouTube, sur... En ça, je trouve que les réseaux sociaux
oui, c'est formidable.
Peuvent être formidables. Ça peut être... terrible aussi, épouvantable pour certains, sous certains autres aspects. Mais pour des gens curieux, et quand on a envie de partager, comme c'est mon cas, en faisant des interviews, en sortant des documents de sa propre documentation, en montrant des choses, c'est une librairie, une vidéothèque ouverte, une façon de transmettre sa passion qui peut être assez formidable.
Vous avez raison, et tous les matins, entre 4h30, enfin tous les week-ends matins,
ouais,
entre 4h30
dimanche.
Et 6h sur RTL. Et puis là, très prochainement, vous allez retrouver Jean-Pierre Pasqualini.
Ouais.
Pour,
là, on va peut-être un peu plus parler de musique que de cinéma, parce qu'avec lui, j'imagine, enfin je ne sais pas ce qu'il va me demander, mais le connaissant quand même, on va surtout parler de musique. C'est-à-dire que j'ai aussi fait tellement d'émissions musicales et j'ai rencontré
pour vos 40
tellement
ans de
gens formidables, parce que je mets toujours un peu de cinéma partout où je peux, mais enfin la musique fait presque autant partie de ma vie. C'est moins passionnel, mais ça fait partie, je n'envisage pas la vie sans cinéma, sans musique.
En tout cas, merci beaucoup Vincent Perrault.
Est-ce que c'est fini déjà là?
Ah ben je crois.
Ah bon? Eh ben c'est passé vite.
Merci beaucoup. Et ce podcast est à retrouver sur toutes vos plateformes habituelles. Et puis à très bientôt sur Mélodie Radio.
Mais je le relaierai sur Pop Sinoche alors.
On fait ça.
Eh ben on fait ça, on va se partager. Okay.
Avec grand plaisir.
Merci
Vincent Perrault.
Salut.
Mélodie, la radio vintage forever.